9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
La Judengasse. Judengasse, ça veut dire la rue des Juifs. C'est le nom qu'à Francfort a pris tout le quartier qui était le ghetto juif. Et nous sommes au 18e siècle. On peut dire que ce ghetto est un des plus anciens, des plus stricts, des plus misérables, un des derniers d'Allemagne. Francfort était à l'époque une de ces villes extrêmement riches, hein, une ville libre du Saint-Empire romain germanique, ville qui était subordonnée évidemment à l'empereur et pas à un prince d'empire. C'est pour ça qu'on disait qu'elle était ville libre. Elle ne rendait compte à aucun suzerain. Bien qu'aucun voyageur et étranger ne se soit rendu dans le ghetto, on pouvait apercevoir sur le pont principal qui mène au centre de la ville une grande fresque qui avait été peinte par ordre des autorités civiles de Francfort. Et je laisse à Tristan Gaston Breton, dans son ouvrage La saga des Rothschild, nous décrire cette fresque qui se trouve donc à l'entrée de la ville. Je le cite. La Judensau, ou truie des Juifs, représentait une énorme truie levant la queue afin de permettre à un Juif de lécher ses excréments. Centre commercial de première importance, cité de banquiers, de marchands et d'artisans, Francfort était alors une des dernières grandes villes d'Allemagne à traiter les Juifs en paria. La communauté était reléguée dans un quartier réservé. La Judengasse, cette rue des Juifs, était séparée du reste de la ville par une enceinte de plusieurs mètres de haut et par trois portes que l'on fermait chaque soir à la tombée de la nuit. Les habitants avaient interdiction d'en sortir les dimanches et jours fériés, véritable ghetto. La rue des Juifs était l'endroit le plus insalubre, mais aussi le plus peuplé de Francfort. Large d'à peine 3 mètres, sombre, humide, elle était constituée d'un enchevêtrement de maisons qui, faute de terrain, avait poussé en hauteur et où s'entassaient jusqu'à 5 familles. Exclus des métiers agricoles, du commerce, des armes et de celui des matières premières, les Juifs de Francfort étaient pour la plupart prêteurs sur gage, changeurs, fripiers ou brocanteurs. Dans ce quartier misérable et miséreux, est en train pourtant de surgir, de naître, est en train de voir le jour une des plus grandes puissances bancaires de l'Europe, et cela va prendre très peu de temps, seulement quelques décennies.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Voici notre personnage né en 1744 dans ce ghetto de Francfort. Il s'appelle Meyer Amschel, c'est son prénom. Il est donc né dans cette Judengasse de Francfort. Et malgré l'écroix, l'invraisemblable ascension qui va être la sienne, il ne quittera jamais de toute sa vie la Judengasse. Il fera quelques déménagements, mais ce sera simplement pour aller vivre dans des maisons voisines. Et toujours, il sera fidèle au quartier de ses ancêtres. D'ailleurs, son nom de famille, Rothschild, vient d'ici. Un de ses ancêtres a adopté ce patronyme car c'était l'enseigne de sa maison Zum Rothschild, à l'écusson rouge. Rothschild qui a donné Rothschild. Je cite encore Tristan Gaston Breton qui nous dit « L'histoire de Meyer Amschel Rothschild est celle d'un homme qui, à force de travail et d'intelligence, malgré les humiliations de toutes sortes, parvint à se hisser au-dessus de sa condition. Lorsqu'il naît en 1744 au cœur de ce quartier juif de Francfort, rien ne prédestine Meyer Amschel à l'étonnant destin qui sera le sien. Son père, Amschel Moses Rothschild, est un modeste changeur qui fait également commerce de soieries, quatrième enfant d'une famille qui en compte 8. Le jeune Meyer reçoit une éducation juive traditionnelle. Dès son plus jeune âge, il est impliqué dans les affaires de la famille. La grande foire qui se tient chaque automne à Francfort et pendant laquelle les Juifs sont autorisés à commercer lui permet de s'initier très tôt aux opérations de change des monnaies. Elle éveille également en lui une passion qui sera à l'origine de sa fortune, la numismatique. Dès avant son 12e anniversaire, Meyer est capable, d'un seul coup d'œil, de reconnaître une pièce et de déterminer son origine et son poids. Ce savoir-là, bientôt, va lui être très utile. En 1755, le père meurt prématurément, ce qui veut dire qu'il a 11 ans à l'époque, hein, le petit Meyer. Il a 7 frères et sœurs, hein. Il est le premier fils, je le précise. L'année suivante, donc en mars 56, dans son quartier, on peut voir éclairé par la lueur d'une bougie, des gens modestes, une famille pieuse qui est en train de de dîner de ce qu'elle a réussi à récupérer. Vous l'avez compris, ces Rothschild vivent encore plus pauvrement depuis que le père est mort, mais ils vont connaître une situation familiale pire, parce que ce soir-là, leur mère vient à mourir. On est en mars 56, donc. Et voilà ces 8 enfants qui sont maintenant totalement orphelins. Et le petit meilleur va devoir se débrouiller seul. Alors, on reconnaît chez lui déjà un certain don pour les affaires. Hein. Il a cette espèce de don incroyable pour reconnaître les pièces de monnaie. Bref, on décide de le placer en apprentissage dans la compagnie bancaire de Wolf Jacob Oppenheim, qui se trouve à Hanovre. Il va donc prendre la route, parcourir les 60 lieues qui séparent les deux villes, hein, c'est-à-dire un peu plus de 250 de nos kilomètres. La situation des Juifs de Hanovre est pas du tout celle des Juifs de Francfort. Eux peuvent circuler librement, et de nuit comme de jour. Il n'y a pas de ghetto à Hanovre. La banque dans laquelle va travailler Meyer occupe un grand hôtel particulier, qui lui est en plein centre-ville, qui a parfaitement pignon sur rue. Et vous voyez bien que pour ce gamin qui arrive de ce terrible ghetto de Francfort, vivre une vie ouverte comme ça, à découvert, normal, bien d'un seul coup, c'est un changement qui ouvre des horizons. Nicolas Sachs était au violoncelle, accompagné par l'ensemble Arcangelo sous la direction de Jonathan Cohen, interprétait ce concerto, en tout cas le final de ce concerto de Carl-Philippe Emmanuel Bach.
Vous écoutez Radio Classique.
Je n'ai pas insisté sur la situation politique, la situation territoriale de l'Allemagne au XVIIIe siècle, mais vous voyez que nous sommes encore dans cette Allemagne complètement morcelée. C'est une mosaïque de petits états, de principautés. Certains des princes sont électeurs du Saint-Empire. Enfin, c'est une espèce de grand mélange compliqué. C'est très joli à regarder, d'ailleurs, cette carte de l'Allemagne morcelée. C'était très multicolore. Et en même temps, c'est compliqué à saisir. Et c'est dans ce territoire concurrentiel où chaque prince veut rivaliser en richesse, en grandeur et en faste, qu'a grandi notre Meyer Amschel Rothschild. Tous ces princes ont l'habitude, pour gérer leurs finances, de se tourner vers ces co-religionnaires, qui sont ce qu'on appelle à l'époque les facteurs de cour, et qui gèrent à la demande des princes les finances, qui fournissent des troupes, des armes, des bijoux, des objets rares et précieux, etc. Et c'est dans ce contexte-là, chez Wolf Jacob Oppenheim, que Meyer fait donc son apprentissage. Il apprend le fonctionnement du commerce, des échanges de part et d'autre des frontières, tous les rouages du prêt au prince, les intérêts d'intérêts, etc. Enfin bref, il est en train de se former tout simplement. Dans son livre qui s'appelle « Les Rothschild », voici ce que nous dit Derek Wilson. « Les 6 années qu'il passa à Hanovre, Meyer Amschel rencontre de nombreux hommes riches, puissants et leurs agents. L'enfant du ghetto sut observer ces manias aux splendides calèches, aux perruques soignées, aux vêtements brodés, et il comprit que pour accéder à la fortune et au luxe, il devait servir ses hommes et gagner leur confiance. Comment utilisait-il leur argent, se demanda-t-il, à quoi le dépensait-il, comment parviendrait-il à en obtenir une partie ? Beaucoup avaient la manie de collectionner. L'art était très à la mode. Les grands-ducs, les archevêques, les princes accumulaient les statues antiques, les tableaux de la Renaissance, et livres, et bijoux, monnaies, bronzes, tout ce qui pouvait orner leur palais et rehausser leur prestige. Eh bien, le jeune Rothschild, nous dit Derek Wilson, apprit à s'intéresser à ces objets d'art. Il étudia la question. Il acquit modestement sa propre collection et devint un expert dans le domaine. Il se spécialisa dans les médailles anciennes. Et à l'époque où il avait aidé ses parents dans leur travail, il avait appris à reconnaître les spécimens uniques par la finesse de leur gravure ou par leur ancienneté. À Hanovre, dit-on, il fit la connaissance du général von Herstoff, fervent collectionneur et conseiller de Guillaume de Hesse, comte de Hanau, et héritier de la principauté de Hesse-Cassel. Vers 1760, il commença à fournir des monnaies au jeune prince, toujours à très bon prix, parfois inférieur même au prix d'achat. Le profit immédiat ne l'intéressait pas. Il bâtissait une relation. S'il réussissait, il deviendrait juif de cour chez le souverain le plus riche et le plus intelligent de l'Europe. Voilà comment on se fait un nom et voilà comment se crée tout un réseau. Il est encore tout jeune, il a 19 ans à notre époque, à notre Meyer. En 1763, il rentre à Francfort et il va revivre, je vous l'ai dit, il se réinstalle dans cette Judengasse où il prend la charge de ses plus jeunes frères et sœurs et il exerce à la fois le métier de changeur, bien sûr, qui était celui de sa famille, mais aussi celui de marchand d'antiquités et bibelots. En vérité, il s'intéresse à cet héritier de la principauté de Hesse-Cassel, ce même Guillaume de Hesse qu'il fréquentait de loin à Hanovre, qui a un an de plus que lui, ce jeune prince, et qui réside désormais tout près de Francfort, à 5 lieues, dans son palais de Hanau. Hanau, comme diraient les Allemands. Notre Rothschild va tout faire pour se faire remarquer du jeune prince. Il sait que Guillaume de Hesse est très riche, qu'il est passionné d'antiquité et qu'il faut par ailleurs qu'il contente ses maîtresses. On dit qu'il a beaucoup de maîtresses. On dira même que dans sa vie, il aura eu quelques 70 bâtards. Ça vous donne une idée. Bref, Meyer va lui envoyer des pièces et en 1765, les deux hommes finissent par se rencontrer, par se voir. Et c'est à l'occasion de la foire de Francfort. Et Guillaume de Hesse, qui est tout content de rencontrer celui qui est un peu son pourvoyeur en monnaies anciennes, lui serre bien chaleureusement la main. Il est content, il le remercie pour tout ce qu'il lui a déjà fait parvenir. Et le jeune Rothschild lui dit que c'est un honneur, évidemment, de pouvoir le servir et le conseiller. Et il lui présente un catalogue qu'il a fait spécialement avec les objets rares. Des objets, dit-il, dont la valeur ne cessera de croître. Et voilà que pendant 4 ans, les deux hommes vont rester comme ça en étroite association. Et bien sûr, mais il y aura d'autres clients. Seulement, Guillaume est le principal de ses clients. Et quand je dis le principal, pas seulement dans les faits, aussi dans l'esprit du jeune marchand qui a compris tout ce qu'il pouvait tirer de cette extraordinaire relation. En 1769, le prince va finir par accorder à la maison Rothschild le titre de fournisseur officiel de la cour de Hesse. Et voilà, Meyer est maintenant facteur de cour, il a ce titre très envié. Et l'année suivante, en 1770, il peut se marier, il a bien l'intention de fonder quelque chose. Ce qu'il a l'intention de fonder, disons les choses, c'est à son tour un véritable empire. Ça ressemble à du Mozart à s'y méprendre, mais c'est du Cimarosa, l'ouverture du Mariage secret par l'English Chamber Orchestra sous la direction de Daniel Barenboim.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Dans les années maintenant, on va franchir un petit peu de temps. On est dans les années 1780, ça fait de nombreuses années, presque 12 ans que Mayer est le facteur de cour de Guillaume de Hesse, avec un commerce qui maintenant s'étend sur l'ensemble des territoires allemands et même au-delà d'ailleurs. Sauf qu'en 1785, le père de Guillaume vient à mourir et le prince retourne à Cassel, là-bas plus à l'est, pour succéder à son père dans le Landgraviat de Hesse-Cassel. Il devient Guillaume IX de Hesse. Mais ça, pour notre Rothschild, c'est une extraordinaire aubaine. Le Landgrave a bien l'intention de faire fructifier la fortune colossale que lui a léguée son père. Il a de grands projets pour son petit état de Hesse-Cassel, qui est un endroit assez extraordinaire. On est dans la Prusse occidentale. Hein. J'ai eu l'occasion de découvrir ça quand j'étais tout jeune. Et c'est une région d'une richesse à tout point de vue. Et évidemment que pour le nouveau Landgrave, il y a des perspectives immense qui s'ouvre. Mayer Amschel Rothschild va lui proposer de pratiquer le prêt à usure, parce que très souvent, il y a d'autres princes qui, sachant la fortune de Guillaume IX, vont lui demander de lui prêter de l'argent. Sauf que pour un prince, ça ne se fait pas. On prête pas d'argent. Vous savez que c'est totalement contraire aux préceptes de l'Église. Ça rapporte, mais c'est mauvais pour la réputation. Alors, le prince, en l'occurrence, n'a pas du tout l'intention de devenir l'usurier de l'Europe. C'est donc le rôle qu'on va confier à Mayer Amschel Rothschild, qui lui va faire les prêts en son nom, au nom de Rothschild, ce qui permettra au prince de s'enrichir en bénéficiant de taux très intéressants, mais sans que son nom puisse être atteint. Bien sûr que Guillaume est ravi de ce petit accord, de cette symbiose, si vous voulez. Et voilà comment la maison Rothschild va multiplier les prêts avec l'argent du Landgraviat. Ce qui, évidemment, enrichit beaucoup le prince, mais ce qui enrichit aussi un peu, et qui permet surtout de se faire un nom à notre Rothschild qui s'octroie des commissions, c'est bien normal, et qui, évidemment, va à son tour faire, mais cette fois en son nom, un certain nombre de prêts. Rothschild fait comme ça le tour de l'Allemagne, pour ne pas dire, disons les choses, le tour de l'Europe, et en plus avec son épouse, ils ont maintenant 10 enfants, hein. Il envoie Nathan à Londres, James à Paris, Karl à Naples, chacun va pouvoir développer des affaires, une sorte de succursale dans un pays différent. Les fils sont en quelque sorte le relais de la banque Rothschild. Ils deviennent très vite les représentants de la banque la plus solide d'Europe. Je cite de nouveau Tristan Gaston Breton. C'est à ce moment, dans les premières années du 19e siècle, que Mayer Amschel Rothschild devient un financier de premier plan. En affaires avec plusieurs familles princières pour lesquels il collecte et place des fonds dans toute l'Allemagne, il s'est lancé dans la négociation des emprunts publics gagés par des obligations d'État. Sa prospérité doit beaucoup au clientélisme et aux portes que lui a ouvertes Guillaume de Hesse. Elle doit également beaucoup à son acuité personnelle, à sa rapidité de jugement, à son honnêteté et aux conditions avantageuses faites à ses commanditaires. Dès le début du 19e siècle, l'ancien négociant en médailles et pièces jouit d'une réputation flatteuse dans toutes les cours d'Allemagne. Les princes apprécient sa grande discrétion, son savoir-faire à toute épreuve et l'assurance avec laquelle, sans se tromper, il jongle avec les thalers, c'est la monnaie de l'époque. Avec lui, l'argent des princes voyage beaucoup, nous dit Tristan Gaston Breton, à la recherche du meilleur rendement, que ce soit en Allemagne ou à Londres, la principale place financière de l'époque. C'était l'argent. L'élargissement de l'horizon des affaires de Mayer Amschel eût été impossible sans le concours de ses fils, qui sont autant de relais avec lesquels un contrat d'association est passé en 1810. C'est l'acte de naissance de la compagnie Mayer Rothschild et fils, ancêtre de toutes les entreprises de la famille. C'est également le point de départ d'un formidable projet dynastique qui réserve au seul fils la propriété des parts de l'affaire qu'ils ne pourront librement céder. À la génération suivante, les fils de Mayer Rothschild essaimeront dans toute l'Europe, donnant corps à la vision internationale qui était d'emblée celle de leur père.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il y a des fidélités chez cet homme-là qui, vous l'aurez compris, est assez extraordinaire, pas seulement dans la méthode et dans la très grande sagacité qui lui permet de bien juger dans le cours d'une vie très mouvante, entièrement consacrée aux affaires, mais qui est un homme de principe, un homme de morale et de fidélité. Il est fidèle jusqu'au bout, toute sa vie, au prince Guillaume de Hesse. Et quand Guillaume de Hesse devra fuir sa principauté parce que les troupes napoléoniennes sont arrivées en 1806, eh bien, c'est chez lui, dans la Judengasse, c'est dans ces caves absolument inaccessibles que Mayer va cacher le trésor du prince. Et il continuera même à faire fructifier son argent en son absence. Et partout à travers l'Europe, vous avez bien compris que par ailleurs, ses fils sont là, qui développent les affaires, qui maintiennent la réputation d'une banque Rothschild. Et vous savez à quel point pour une banque, surtout une banque naissante, à quel point la réputation est essentielle. Tout est une question de crédit dans tous les sens du terme. Il y a une légende qui raconte qu'en 1815, la branche londonienne de la banque Rothschild a multiplié sa fortune en apprenant avant tout le monde la défaite de Napoléon à Waterloo. Ils avaient utilisé le télégraphe Chape, vous savez, et ça avait permis d'aller beaucoup plus vite que les autres. Les Rothschild avaient des relais qui leur avaient permis d'être immédiatement informés du sort de la bataille. On aurait anticipé la hausse à venir de la bourse, mais on avait surtout profité de la chute de la bourse au moment de l'annonce de la bataille, parce que la réputation de Napoléon était telle qu'on pensait qu'il gagnerait. Bon, on connaît toute cette histoire, et c'est vrai que la branche londonienne va fructifier dans des proportions folles. Est-ce que c'est vrai cette histoire? J'ai eu l'occasion d'en parler déjà à ce micro, on n'en est pas sûr du tout. Quoi qu'il en soit, les Rothschild ont vraiment participé à la chute de Napoléon. Il serait possible, et bien avant moi, Henri Guillemin l'a fait brillamment, même si tout le monde n'est évidemment pas d'accord avec les conclusions très anti-napoléoniennes qu'il tire. Henri Guillemin avait fait une étude purement financière de l'ascension et de la chute de Napoléon, et c'est vrai que la haute finance européenne a joué dans toute cette histoire un rôle absolument essentiel. Ce qui est certain, c'est que les Rothschild ayant contribué à faire chuter Napoléon, ils vont être récompensés par les alliés, surtout après la seconde chute de l'empereur après Waterloo. La vérité, c'est que tout ça, notre fondateur, ce petit bonhomme incroyable, orphelin du ghetto juif de Francfort, ce petit bonhomme, ce petit Mayer Amschel, il ne le verra jamais parce que il est mort entre-temps. Il est mort en septembre 1812. Il avait à l'époque 68 ans. En 1812, d'ailleurs, on peut dire de la Judengasse qu'elle n'est plus un ghetto parce que l'influence de Mayer a été telle qu'il a réussi à négocier 16 ans plus tôt, en 1796, la fin du ghetto de Francfort, l'acquisition de la liberté pour tous les Juifs qui vivaient avec lui dans cette rue qui avait si longtemps été fermée, été maltraitée. Désormais, et grâce à Monsieur Rothschild, les Juifs de Francfort peuvent circuler comme ils veulent, où ils veulent.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen et bonjour à notre Christian Morin.
Bonjour mon cher Franck, un prochain passage d'antenne, nous pourrions peut-être le faire avec le principe de Chape, le télégraphe à l'ancienne.
Je suis pas sûr que ce soit très radiophonique.
Non. À propos de Rothschild, il y a cette très belle histoire de Rothschild et Rockefeller qui se trouvent
Non, on n'est plus à la même génération, là.
Non, beaucoup plus tard. Mais évidemment. D'autant qu'ils sont au Salon de l'Automobile de Genève, très célèbre, et Rothschild est aux côtés de Rockefeller, et Rockefeller dit à Rothschild, il dit, j'irai bien voir les nouvelles Bentley. Qu'est-ce que tu en penses? Allons voir les nouvelles Bentley. Et Rockefeller commande une Bentley, et dit que je pourrais la voir dans 8 jours avec le couleur cuir de la même couleur que la carrosserie. Pas de problème. Et ça t'intéresse, dit-il à Rothschild. Il dit oui, j'aimerais bien la même. Mettez deux Bentley, s'il vous plaît, même couleur, pour dans 8 jours. Et il sort son chéquier et il règle. Et il y a Rothschild qui dit à Rockefeller, il dit, tu vas pas régler quand même les deux voitures. Il dit, je t'en prie, tu as déjà payé les cafés ce matin. Voilà. Donc je vous offre un café, si
mais
vous
voilà,
voulez.
Mais voilà, en attendant mieux.
Qu'en pensez-vous
en attendant mieux, le Bentley.
En attendant qu'on aille au Salon de Genève. Cet après-midi, eh bien, vous allez nous parler de... attendez, alors. Je n'ai... The Bayard cet après-midi.
Non, je ne crois pas.
Ah non, c'est pas Bayard. C'est pas
Bayard. Puisque...
Bon, mais je ne l'ai pas noté. Alors, c'est de ma faute. Je vais retrouver.
Je vous parlerai du chevalier Bayard demain.
Exactement.
Puisque c'est le 500e anniversaire, vous savez, de sa mort. Ce sera bientôt, en tout cas, le 30 avril prochain.
Alors, cet après-midi, donc, vous parlez de Amerigo Vespucci.
Ah voilà. Amerigo Vespucci, qui a donné son nom au continent américain.
Bien, mon cher Franck, à tout à l'heure, 14h. Et à demain.